T'as déjà goûté une andouille?
Non.
C'est épicé. T'aimes les épices?
Non.
C'est pas si épicé que ça. Allez, viens.
Un soupe de grand-mère?
Oui, c'est-à-dire il faut quelques poireaux, quelques pommes de terre et un peu de beurre.
Non.
Et surtout, attention, l'eau, parce que l'eau, c'est très difficile pour un potage.
À quoi servirait la technique moderne si elle ne nous évitait pas quelques fatigues? D'abord, chez vous, eh bien, il y aura un ordinateur qui s'occupera de la cuisine.
Je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Tout comme en musique, on a le hip-hop, le rock, l'électro ou le classique, la gastronomie est portée par plusieurs courants, dont le nombre peut varier à tout moment, car la cuisine, c'est un art éphémère, en mouvement perpétuel, qui se réinvente à l'infini. Alors que certains chefs s'accrochent encore à la grande tradition de la gastronomie française, d'autres, plus affranchis, ouvrent une voie nouvelle dans le goût. Saluons tout d'abord les initiateurs, ces cuisiniers qui ont secoué une gastronomie imbue d'elle-même, qui, fort d'une indépendance d'esprit indéfectible, ont marqué l'évolution de la gastronomie à jamais. Les initiateurs, je dirais que ce sont les Michel Guérard, Trois Gros, Bras, ainsi que Pierre Gagnère, Olivier Rollinger, les Alain Ducasse, Alain Passard et Yves Candebordes. Chacun dans leur coin, s'acharnant dans leur recherche personnelle, ont eu l'énergie de donner l'impulsion à de nouvelles réflexions. Dans la gastronomie d'aujourd'hui, celle du XXIe siècle, on dénombre six grands courants. Les naturalistes, les orientalistes, les néoclassiques, les bistronomes, les street foodistes et les sains. J'entends par là ceux qui incarnent une prise de conscience de la façon de consommer et de manger, cuisine végétarienne, vegan, healthy, green. Les idées des uns influencent celles des autres et les nôtres aussi, puisque la cuisine familiale est grandement perméable aux influences de la gastronomie qui se joue dans les cuisines des restaurants et de leurs grands cuisiniers.
C'est quoi ce délire, hein ?
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Grains de sel et papilles que j'ai choisi de baptiser « Joli mois de mai ». Au programme, une success story, celle d'une petite légumineuse qui se cultive tout autour de la Méditerranée et se fête chaque mois de mai à Montarin, dans le Gard. Ce sera cette année les 20, 21 et 22 mai. C'est le pois chiche qui signe un retour en force dans nos assiettes après avoir longtemps été négligé. Je te dévoilerai son histoire, son pédigré et une recette du Sud, le panis, en deuxième partie d'émission. Qui dit mois de mai dit ouverture de la saison des fruits rouges et l'arrivée des fraises de plein champ que nous célébrerons avec deux recettes, l'une salée, l'autre sucrée. Je te raconterai aussi comment ce fruit rouge pour certains producteurs est devenu une production annuelle et dénuée de saveur. Et s'il y a encore besoin de le rappeler, le local et de saison, c'est notre credo dans Grains de sel et papilles. Nous célébrerons surtout la fraise de pays, la star des étals de nos marchés et de nos magasins de producteurs. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'un nouveau lieu pour épicuriens. Ouverture courant mai à Bourg-lès-Valence, j'ai rencontré deux jeunes créateurs d'entreprises pleins d'énergie. Je te les présenterai en fin d'émission. Le soleil brille à la fenêtre. Joli mois de mai dans la cuisine de Grains de sel et papilles. C'est parti. Vous avez reconnu les Beatles et leur titre Here Comes the Sun. Selon les langues, on l'appelle Cicère en latin ou en arménien, Tchétché en italien, Chickpea en anglais, pois cornu et même petit cul dans le Languedoc. Le pois chiche est une légumineuse très ancienne, possiblement originaire du Moyen-Orient. Ce qui est sûr, c'est qu'on le récolte dans les jardins du sud de la France depuis le 9e siècle. Pendant les Trente Glorieuses, elle a été la légumineuse du pauvre, un peu boudée par les consommateurs. Elle a même disparu à un moment de nos tables. Le retour du pois chiche en force est lié à l'émergence de la culture bio et de ce genre de culture comme la lentille ou le pois chiche. Les bassins de production traditionnels sont le sud-est et le sud-ouest pour aller aujourd'hui vers des territoires un peu plus au nord comme la Vendée. C'est aussi grâce à la cuisine du Maghreb et du Moyen-Orient qu'on le retrouve aujourd'hui à toutes les sauces. L'engouement pour la cuisine végétale aussi, qui recherche des bonnes protéines pour diversifier ses sources ou pour manger moins de viande, y est aussi pour beaucoup. Le pois chiche sur les tables françaises ? Avoue qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas grand monde qui mangeait du houmous. Parce qu'il est plein de protéines, que c'est le chéri des végétariens et qu'en termes de diététique, il propose un cocktail explosif, protéines, fer, magnésium, vitamines. Et si tu combines blé dur et pois chiche, tu retrouves dans ton assiette les 9 acides aminés essentiels à l'homme et à la femme. Le pois chiche est de retour. Pour éviter de fatales flatulences, on ajoute un peu de bicarbonate de soude à l'eau de trempage ou dans les recettes. Et plus tu manges fréquemment des légumineuses, moins elles vont te déranger. Le corps s'habitue. Alors le pois chiche, cuit en boîte ou sec en vrac? Je dirais sec et si possible local, c'est l'idéal. Mais pour les jours surchargés de travail ou les jours de grande flemme, je dis bocal. Si tu veux en savoir plus sur la culture du pois chiche par ici, écoute ou réécoute la locale du goût pour demain, lentilles et pois chiches en replay sur la page de la radio. Tu découvriras ainsi le travail de la ferme d'Aubin à Porte-les-Valence. Le poète Théophile Gautier disait du pois chiche que c'est un petit pois qui nourrit l'ambition d'être un haricot et qui, heureusement, y parvient. C'est pour ça qu'on peut oser remplacer les haricots secs dans des cassoulets ou dans des soupes par du pois chiche. Pour le manger entier, on le préfère petit, il est meilleur, moins farineux que les gros. Les gros sont parfaits pour le houmous par exemple. Le houmous, c'est génial, c'est une purée de pois chiche, tu ajoutes du tahini qui est une crème de sésame, de l'ail, des épices, du jus de citron et de l'huile d'olive. Le houmous, tu peux le servir pour des trempettes à l'apéro ou dans une grande assiette végétale ou en condiment. Au sortir de l'hiver, rien de tel. En cuisine, lorsqu'ils sont secs, les pois chiches ont besoin de 12 à 24 heures de trempage, dans le triple de leur volume d'eau pour se réhydrater. Après trempage, il faut égoutter les légumineuses et donc ne pas garder l'eau de trempage. Ensuite, on démarre une cuisson à froid avec une nouvelle eau. Porte toujours à petit frémissement, pas de grosse ébullition. Il faut que ce soit juste en dessous de 100 degrés, autour de 90. Alors, combien d'eau pour la cuisson ? Compte en général 4 à 5 fois son volume en eau. Autre point important, sale en fin de cuisson avant d'égoutter, mélange et laisse le sel pénétrer 5 minutes. Égoutte ensuite tes légumineuses et assaisonne-les d'huile ou autre quand elles sont encore chaudes. C'est important, un peu comme la pomme de terre d'ailleurs. Tu pourras ensuite très bien faire sauter les pois chiches cuits dans une poêle avec de l'ail ou de l'oignon rissolé, des épices légèrement torréfiées. Afin qu'il soit bien cuit, il faut au moins 1h30 à 2h de cuisson. Et n'y crois pas quand on te dit 30 minutes. Les pois chiches sont des légumineuses, elles sont les plus longues à cuire. Le pois chiche ne se limite pas à la graine. On aime beaucoup l'utilisation de la farine aussi. C'est une farine sans gluten avec un indice glycémique bas. Elle est excellente contre le mauvais cholestérol et le diabète. La farine de pois chiche est la base de deux spécialités du Sud, le panisse marseillais et la socca niçoise. Pour l'un ou l'autre, on est toujours sur le même principe. On mélange de la farine de pois chiche à de l'eau et on ajoute de l'huile d'olive. La socca, la niçoise, c'est une galette assez fine qu'on cuit au four jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Apportée par les ouvriers italiens qui émigrèrent en France au XIXe siècle, la socca est toujours vendue dans la rue, sur les marchés. Elle se découpe en parts saupoudrées de poivre noir, puis roulée dans un cornet en papier, et se mange tout de suite sur place. La soca n'attend pas. Les panis marseillais, on en achète encore un peu dans Marseille, dans des cornets tout gras. Voilà, c'est frit, c'est moelleux. On en trouve aussi aux cartes des bars chics, à consommer en sortie de friteuse, croustillant moelleux avec un verre de vin.
Voilà, et du moment qu'il a commencé à bouillir, on peut goûter. Et je pense que ça doit être bon.
Tu es bien sur Radio BLV 93.6. Bienvenue dans Grain de sel et papilles si tu nous rejoins. On passe maintenant en cuisine et je partage avec toi une recette de panis aux olives noires et tomates séchées. Comme à l'habitude, on commence par préparer tous les ingrédients, les ustensiles et le contenant final dont on a besoin. Porte un litre d'eau à ébullition dans une casserole. Hors du feu, verse 330 g de farine de pois chiche en pluie fine, tout en mélangeant doucement à l'aide d'un fouet. Remets ensuite à cuire à feu doux sans cesser de mélanger. Cuit à frémissement pendant 10 minutes pour laisser sécher la pâte. Ajoute alors 50 g d'olives noires dénoyautées et 10 tomates séchées à l'huile, toutes deux hachées, ainsi qu'une gousse d'ail pressée. Mélange bien. Corrige l'assaisonnement avec une pincée de sel et du poivre, puis verse le tout sur une plaque préalablement filmée en une couche épaisse de 2 cm. Lisse, puis dépose un film au contact afin d'éviter que le panis ne croûte sur le dessus. Laisse refroidir et poser au frigo au minimum une demi-journée. Au moment de passer à table, taille le panis en losange, fais-le frire à 160 degrés pendant 3 minutes ou fais-le sauter à la poêle. Dispose les panis afin de composer une grande assiette végétale pleine de couleurs et de saveurs. Qu'on l'appelle grande assiette végétale, bol ou bouddha bol, tout ça se compose avec variété et harmonie. Des crudités râpées, des légumes cuits, vapeur ou rôtis. On agrémente ça d'un ou plusieurs condiments plus élaborés, par exemple une crème de betterave bien relevée. On saupoudre d'herbes et pour le croustillant, quelques graines de sésame grillées ou des crackers émettés. On assaisonne d'huile, vinaigre, sel et poivre et on dispose au centre les panis tout juste sortis de la poêle. Bien sûr, une fois qu'on s'est donné tout ce mal, ce serait dommage de tout avaler en 2 minutes. On prend alors le temps d'observer, d'absorber et de savourer le petit univers comestible qu'on vient de créer. Faisons une pause musicale afin de célébrer la fraise, reine du printemps, Gariguette, Sifflerette, Charlotte et Mara des Bois, tout de suite.
Thank you. out of here, the best of me now. I can do what I want inside of this house. If I wanna eat some strawberries and popcorn for dinner, well, it's up to me. Strawberries and popcorn.
C'était Strawberries and Popcorn de Hills. On trouve des fraisiers des bois en Europe depuis l'Antiquité. Et grâce aux conquistadors, comme souvent en matière de fruits et légumes, la fraise à gros fruits arrive en France au XVIIIe siècle par la Bretagne. Ce sont des fraisiers à gros fruits blancs qui ont été ramenés du Chili par M. Amédée François Fraisier. Et non, son patronyme n'a rien à voir avec le fruit. Il s'écrit F-R-E-Z-I-E-R. C'est une pure coïncidence. D'abord plantée dans le jardin botanique de Brest, la culture du fraisier s'est développée ensuite à Plougastel, qui cultivait déjà la fraise des bois. La fraise de Plougastel connaît son apogée dans les années 40. Le déclin de sa culture se fait au profit de la tomate, avec une méthode moderne de production, la culture hors sol. Et donc, c'est logiquement que la fraise a retrouvé le chemin des serres en hors-sol chez les producteurs bretons. J'attends ce moment de l'année avec gourmandise, le moment de déguster et de consommer sans modération les fraises de pleine terre qui sont cultivées près de chez nous. Certains consommateurs, eux, préfèrent manger des fraises toute l'année. Soit ils ne connaissent pas la saisonnalité des fruits et légumes, et certainement ils n'ont jamais eu la chance de goûter une fraise de saison, cultivée en pleine terre, au soleil, gorgée de sucre et à la flaveur subtile. Effectivement, au cœur de l'hiver, on trouve des productions de fraises avec une variété bien spécifique, la El Santa. Elle pousse en Belgique et aux Pays-Bas. C'est édifiant. Les plants restent au frigo entre 0 et 2 degrés en attendant d'être plantés. Ils se réveillent à la chaleur puisque la production se fait en serre chauffée à 18 degrés, rien que ça, sous des lampes pour la lumière à défaut de soleil, lumière indispensable pour permettre la fructification. Premier bilan, gaz plus électricité, le bilan carbone est déplorable. Ce sont ces fraises-là qu'on trouve à Noël, et là je dis stop. Et des fraises françaises au mois de mars, là aussi, il y a des serres chauffées, des fraisiers qui poussent en hors-sol, non. Le hors-sol, pour décrire cette méthode très moderne, disons qu'il n'y a aucun contact avec la terre ferme. En hors-sol, le fraisier est planté en hauteur, dans un substrat tel que la tourbe. Le plant est nourri avec de l'eau additionnée d'engrais chimiques, chaux, potasse, nitrate, sulfate, n'en jetez plus. Le tout à base de produits pétroliers et pesticides. Et cerise sur le gâteau, si on peut dire, la fraise est un fruit très poreux dans lequel les pesticides pénètrent facilement. Une grande majorité des fraises qu'on trouve en grande distribution sont cultivées ainsi. La double peine, c'est que le consommateur ne peut accéder à l'information de la méthode de culture puisqu'il n'est pas obligatoire de la mentionner sur l'étiquette. La seule certitude concerne les fraises bio pour lesquelles le seul mode de culture autorisé est la pleine terre. La terre a son importance, et oui, le terroir et les oligo-éléments permettent la synthèse d'un certain nombre d'arômes dans le fruit. C'est ce qui fait la différence entre une fraise bretonne cultivée hors sol et une fraise de Bourg-lès-Valence de pleine terre. Avec les jardins suspendus, comme on appelle joliment ces plantations modernes de fraisiers, le terroir n'existe plus, peu de saveur, une chair bien trop ferme et un bilan carbone désastreux. Pour une bonne fraise avec gourmandise et patience, on attend le début de saison. Achète-les en production locale, marché, magasin de producteurs et enseignes spécialisées qui communiquent sur les producteurs et les modes de production. Le mot de la fin, aujourd'hui, c'est pour la fraise. Comment appelle-t-on les petits grains verts à la surface de la fraise ? Ce sont des akènes. Ce qu'on mange, en fait, c'est le réceptacle floral devenu charnu et sucré. Et les vrais fruits, ce sont les akènes. T'es toujours là ou je t'ai perdu ? Comme tous les fruits rouges, la fraise est fragile. Il vaut mieux la manger le jour de son achat. Ainsi, on ne les met pas au frigo, ce qui enlève une partie de la flaveur et gâche une partie du plaisir. Allez, on arrête la théorie, on file en cuisine. Avec tout d'abord une proposition gustative intéressante, une combinaison élégante, salade de printemps aux fraises, au pois mange-tout. Et pour finir, nous préparerons un cheesecake sans cuisson et fraises fraîches. Pardon.
C'est quoi ce délire, hein ?
Pour cette salade de fraises, pois mange-tout, pickles d'oignons et basilic pour 6 personnes, commence par laver 300 g de pois mange-tout. Fais chauffer de l'eau avec du gros sel et à ébullition, fais cuire les pois mange-tout 5 minutes. Égoutte et rince à l'eau froide pour stopper la cuisson. Réserve. Pour les pickles d'oignons, minute. Fais chauffer 125 g d'eau avec 90 g de vinaigre blanc et 45 g de sucre. Lorsque le mélange bout et que le sucre est fondu, éteins le feu. Émince un demi-oignon rouge et ajoute-le au mélange vinaigré. Laisse les pickles infumer le temps de préparer le reste de la recette. Dans un bol, mélange les ingrédients de la vinaigrette, 100 g d'huile d'olive, 30 g de vinaigre de cidre et une pincée de sel. Lave 500 g de fraises, coupe-les en deux et cisèle le basilic, environ 6 grandes feuilles. Dans un saladier, mélange tous les ingrédients. Tu peux compléter cette recette avec des jeunes pousses ou du pourpier, c'est délicieux. Pour la seconde recette à base de fraises, nous préparons maintenant un dessert, un cheesecake sans cuisson et fraises fraîches pour 6 personnes. Préchauffe le four à 170 degrés et fais tremper une feuille et demie de gélatine dans de l'eau froide. Prépare maintenant une crème fouettée avec 125 ml de crème fleurette ou crème liquide à 30% de matière grasse. Prépare ensuite la base du cheesecake en réalisant 120 g de pâte à crumble avec temps pour temps de farine, poudre d'amande, sucre et beurre, soit 30 g de chaque ingrédient. Sable les ingrédients entre tes doigts. On va déposer la plaque obtenue sur une plaque à pâtisserie et on fait cuire 20 minutes au four. Laisse refroidir. Mélange ensuite le crumble avec, dans un bol, 30 g de beurre fondu. Dépose des cercles à pâtisserie sur une plaque en format individuel et répartis le mélange dans le fond des cercles. Tasse avec le dos d'une cuillère et mets au frais pendant que tu prépares la crème. Pour la crème, dans un saladier, verse 250 g de Saint-Mauré ou de Philadelphia. Fouette avec 80 g de sucre et le zeste finement râpé d'un citron bio. Fais chauffer à la casserole le jus d'un citron et fais-y fondre la gélatine essorée. Ajoute au mélange à base de Saint-Mauré rapidement. Incorpore ensuite la crème fouettée en soulevant la préparation délicatement avec une spatule. Verse dans les moules sur la base de biscuits et place au frais pour 12 heures minimum. Au moment de servir, prépare des fraises que tu coupes en deux. Tu peux ajouter un peu de sucre si elles ont besoin d'aide. Démoule les cheesecakes et coiffe-les avec les fraises. Sers aussitôt.
Quoi ce délire, hein ?
Je suis allée tendre le micro de Radio BLV au 165 rue des Chabanneries, à Bourg-lès-Valence. C'est en face du Leclerc, l'ancien Maxès. Ici, ça bouillonne d'activités. Des travaux, des livraisons à décharger. Il faut dire que l'ouverture est imminente. un nouveau lieu avec des produits locaux, frais et de saison, qui font envie. Fruits, légumes, épiceries, boucheries, charcuteries, fromages, boissons et jus de fruits. Le marché local ouvrira ses portes à la mi-mai. Je vous tiendrai au courant. Ce sont deux jeunes entrepreneurs qui nous accueillent.
Bonjour à tous. Alors moi, c'est Jean-Baptiste Creix. Je suis un jeune entrepreneur des choix qui a décidé de venir sur Valence. Je suis issu d'une famille de primeurs et j'ai décidé de monter ce projet il y a maintenant à peu près un an et demi avec mon équipe et notamment Maxime qui est avec moi maintenant.
Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Maxime Henault. Alors moi, je suis d'origine, je suis normand, donc je suis descendu à Grenoble pour mes études. Et c'est ici, c'est à Grenoble, donc à l'IAE, que j'ai rencontré Jean-Baptiste et qu'on a monté ce projet de A à Z. Ça fait maintenant un peu plus d'un an, comme il l'a dit.
Maxime, présente-nous le lieu, s'il te plaît, et les produits qu'on va trouver ici.
Alors du coup, ici, on est dans la zone commerciale du Leclerc à Bourg-les-Valence. On a un bâtiment qui fait en tout une surface de un peu plus de 500 mètres carrés et on a donc une surface de vente, un magasin, qui fait un petit peu plus de 300 mètres carrés. Et donc, dedans, vous pourrez retrouver tous les produits alimentaires nécessaires au quotidien, c'est-à-dire les fruits et légumes, la viande, la crèmerie, la fromagerie et une épicerie locale.
Ça fait envie. Alors, cette ouverture, elle est prévue pour quand ? On en est où ?
On en est vers la fin des travaux, ça touche à sa fin, donc mi-mai, on devrait être prêt pour une ouverture.
Jean-Baptiste, le marché local va proposer 90% de produits locaux. Dis-nous, s'il te plaît, quelle est votre zone d'approvisionnement ?
Le plus possible autour de nous, on a quand même une région entre la Drôme et l'Ardèche très agricole, donc on a beaucoup de produits, beaucoup de chance d'avoir des bons produits autour de nous, donc on va les mettre en avant et ensuite on ira chercher un petit peu plus aux alentours, je pense à l'Isère pour les noix.
J'ai appris qu'il y aurait un laboratoire de transformation au sein de la boutique. Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer et nous dévoiler ce qui va mijoter dans les gamelles du marché local ?
Alors on est parti d'un constat que dans la vente de fruits et légumes, il y avait beaucoup de déchets. Et donc, à partir de ce constat, on a essayé de trouver une solution pour limiter cette quantité de déchets. Et donc, il nous est venu l'idée de mettre au milieu du magasin un laboratoire de revalorisation des déchets. Donc, en fait, les fruits et légumes qui ne seront pas vendus seront retransformés en produits type soupe, confiture, jus au sein de notre laboratoire et qui seront revendus ensuite dans notre magasin.
Est-ce qu'on pourra aussi déguster sur place ?
Alors en fait, donc, en plus du laboratoire de revalorisation des déchets, on voudrait retrouver vraiment dans ce magasin toute la convivialité qu'on peut trouver sur le marché, on va dire, le week-end. Du coup, dans notre magasin qui aura des allures de marché couvert, on prévoit également un lieu de consommation sur place où les gens pourront acheter certains de nos produits et les consommer sur place avec la possibilité de se restaurer et de boire un verre.
Donc, un lieu dédié au bien manger.
Oui, c'est ça. C'est le but de notre pôle alimentaire, en fait, de créer une polyvalence entre le caviste, la boulangerie et nous pour pouvoir proposer justement cette dégustation et cette convivialité autour de ces produits.
Le marché local, c'est le nouveau magasin de produits locaux qu'on va adorer à Bourg-les-Valence, au sein d'un pôle alimentaire avec une boulangerie et un caviste. On y fera ses courses et on pourra aussi y déguster sur place des planches, un lieu convivial, ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 19h, sauf le dimanche après-midi. Je vais vous proposer maintenant le questionnaire gourmand de grains de sel et papilles. Merci de me donner des réponses du tac au tac. Je vais le faire l'un après l'autre, rien de piégeux, on y va. Jean-Baptiste, en matière d'alimentation, es-tu omnivore, flexitarien, végétarien ou autre ?
Omnivore.
Peux-tu me citer, Maxime, un de tes plats préférés ?
Lasagne.
Jean-Baptiste, un ingrédient que tu détestes ?
Les oignons.
Maxime, tu es plutôt bec sucré ou salé ?
Salut.
Jean-Baptiste, quel est le plat ou le dessert qui te renvoie immédiatement en enfance ?
Le chou à la crème.
Quelle est ta pratique, Maxime, de la cuisine ? Dirais-tu que tu es un cuisinier du quotidien ou du dimanche ?
Du quotidien.
Jean-Baptiste, quel est ton plat signature? Si tu cuisines.
Moi, c'était du dimanche. Moi, mon plat signature, c'est les crêpes.
Maxime, quelle est la dernière photo culinaire que tu aies faite et où?
Dernière photo. Je pense que c'était ce week-end quand j'ai rencontré certains producteurs lors du Ferme à Ferme. J'ai fait le nord de l'Ardèche, je pense.
Ok. Et Jean-Baptiste, si tu avais une baguette magique, que commanderais-tu pour le dîner de ce soir? Tu peux tout te permettre.
Tout me permettre?
Tout. On est comme ça, nous.
On s'est dit que t'es champion ce soir, c'est pizza, mais...
Ah, une pizza de folie. Ouais. Tu veux une bonne adresse?
Non, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais commander ce soir? Un truc que... Une côte de bœuf avec frites de patates douces.
Parfait. Mais cher Jean-Baptiste, cher Maxime, merci d'être venu dans Grain de sel et papilles. Merci pour le temps et la passion que vous accordez au bien manger sur notre bout de territoire. À très bientôt au marché local. La recette de salade de fraises et pois manchetous m'a été inspirée par le livre « Des légumes et du goût » de Zora Levacher, qui a deux restaurants à Paris qui s'appellent Sonate. Ce livre est édité aux éditions Ulmer. Il est paru au mois d'avril. Pour la farine de pois chiche, j'ai acheté une farine locale et en vrac chez Kilogramme, Grand Rue à Valence. L'Ardèche, terroir d'huile d'olive à n'en pas douter, l'Ardéchois Éric Martin vient de remporter le titre de meilleure huile d'olive du monde 2022, remis par le guide Flo Olay. C'est l'équivalent du guide Michelin pour les restaurateurs. C'est une fierté pour cet oléiculteur, mais surtout le résultat d'un travail d'assemblage, d'une recherche minutieuse menée depuis plusieurs années. Une huile à réserver pour l'assaisonnement, puisque le prix est tout de même un peu élevé, à 25 euros du litre minimum. La ferme des Volonteux fête le printemps avec une foire aux plantes, l'anniversaire de l'épicerie, la collection de printemps à la friperie et le renforcement printanier avec Physalis devant la ferme des Volonteux. Va passer du bon temps en découvrant les activités de la ferme et en achetant toutes tes plantes potagères, aromatiques et fleurs. Le moment est venu de se quitter et pour moi de te souhaiter une excellente journée. Retrouve les photos et les recettes du jour sur Instagram. Mon compte, c'est Vendredi Soir. Les liens sont également sur la page de l'émission sur radioblv.com. À bientôt les amis.
T'as déjà goûté une andouille?
Non.
C'est épicé, t'aimes les épices?
Non.
C'est pas si épicé que ça, allez viens.
La soupe de nos grands-mères?
Oui, c'est-à-dire il faut quelques poireaux, quelques pommes de terre. Et un peu de beurre. Bon. Et surtout, attention, l'eau. Parce que l'eau, c'est très difficile pour un potage.
À quoi servirait la technique moderne si elle ne nous évitait pas quelques fatigues? D'abord, chez vous, eh bien, il y aura un ordinateur qui s'occupera de la cuisine.
Je me suis dit, c'est ça que je veux faire.